I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Coucou, c'est Mimi et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boys Club, le podcast de Mademoiselle sur les masculinités, où un mardi sur deux, je reçois un mec pour qu'il me parle de son rapport à son genre. Parfois, je suis accompagnée de Fab, alias Fabrice Florent, le fondateur de Mademoiselle, mais cette fois-ci, je suis toute seule et en même temps, je suis en très bonne compagnie puisque je reçois Rory. Salut Rory.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Du coup, je m'appelle Rory, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de psychologie, je fais des vidéos sur YouTube, je suis balance ascendant Sagittaire, je crois, et similaire Cancer, je trouve ça très important de le dire.
Donc, ok, voilà. Tu crois à l'astrologie?
Un peu, c'est genre depuis cette année avec des potes, on s'y est mis, puis quand tu t'intéresses, genre au début, je connaissais que mon signe astrologique balance, et du coup, je regardais mon signe,
Ton ascendant, dans ton horoscope.
Ouais, mon horoscope, j'y croyais pas trop. Puis après, je me suis renseignée sur, mon ascendant, mon similaire. Puis je regardais ma personnalité. Puis des fois, c'est troublant. Du coup, j'y crois pas forcément, mais ça m'intéresse. Je trouve ça un peu fun.
C'est quoi les traits de personnalité des balances, du coup? Moi, j'y connais rien.
Un balance, c'est très artistique. Ça bosse dans le milieu artistique. C'est aussi très juste. Ça aime pas trop les conflits. S'il peut ne pas choisir les choses, il ne le choisit pas. Je réfléchis, putain. Ah oui, j'ai dit sensible.
Non, t'as dit artistique, t'as pas dit sensible.
Du coup, ils sont aussi très sensibles, ils sont prévenants, ils essayent d'écouter l'autre. En vrai, j'ai pas tout en tête, genre parce que je fais pas ça forcément sobre, du coup
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Bien sûr.
Écoute, on va faire cet épisode et on verra à la fin si c'est bien représentatif des balances ou non. Si vous aimez l'horoscope et que vous écoutez The Boys Club, mettez un commentaire pour dire « Ouais, c'est grave, grave balance ce qu'il raconte » ou alors « Ouais, ça se voit qu'il est ascendant Sagittaire et tout ». Je n'y connais rien, je ne saurais pas si vous avez raison ou pas, mais je vous crois. Du coup, Rory, la première question que j'ai pour toi, c'est celle que j'ai pour tous mes invités. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme?
Alors déjà, dans la définition de base, moi je dirais qu'un homme, c'est une personne de sexe ou de genre masculin. Malheureusement, après, quand on prend dans la société, il y a toute une structure autour de ça, plein d'habillements qui font qu'on a beaucoup de codes sociaux sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que être viril, masculin. Du coup, moi j'y crois pas trop. Mon but dans la vie, c'est un peu de détruire tout ça, de déstructurer un peu, de tout démolir en gros. Et puis voilà, pour moi, genre, j'aimerais bien prendre la définition de base de sexe ou de genre masculin. Voilà.
Ok, la base.
Ouais, voilà.
D'où ça advient cette envie de détruire les codes genrés? Est-ce que ça, c'était dès l'enfance?
Je sais pas trop. Après, moi, quand j'étais petit, j'ai très peu eu aussi cette notion de code parce que mes parents me laissaient faire un peu ce que je voulais. Voilà, si je me déguise en princesse, je me déguise en princesse. Moi, je sais pas, genre à Noël, j'avais plus des micros Star Academy avec une petite boule qui fait des lumières que des Action Man ou autres produits genrés pour les enfants. Du coup, moi, je retrouvais plus mon compte dans tout ça. Du coup, et en grandissant, j'ai jamais vu de problème à m'identifier comme d'utiliser
des codes féminins.
Ouais, c'est ça. En gros, c'est genre j'ai jamais eu de problème à me dire ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Moi, je veux ça, je prends ça, et puis basta. Enfin, genre pour moi, c'est complètement absurde de se dire oui, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Genre fais comme tu veux, puis kiffe quoi.
Tout à fait, je suis plutôt d'accord avec ça, mais c'est relativement rare, même ouais. Si je pense que plus ça avance, plus il y a des gens qui sont élevés dans cette idée de, en fait, fais ce que tu veux et prends le genre auquel tu t'identifies et ça ira bien, quoi. Ouais. Si tu veux être un homme et porter des jupes, typiquement, let's go, ça fera pas de toi.
Mon rêve dans la vie, qu'on puisse faire ça, que personne, tout le monde puisse faire ce qu'il veut sans être jugé, c'est vraiment mon rêve de voir des hommes aller au travail avec leurs meilleurs talons aiguilles, voilà, et puis peut-être un jour ça arrivera, mais pour l'instant il y a du taf, quoi.
On y travaille, justement. Ouais. Tu parles du fait que tes parents, ils te mettaient pas la pression sur les codes genrés, mais au-delà des parents, il y a le reste de la société qui existe. Comment ça se passait quand t'étais petit à l'école, avec les autres élèves, mais aussi les instits, etc. Le fait que t'avais pas forcément des goûts très petits garçons, comment ça se reflétait dans les yeux des autres?
D'un point de vue prof, j'ai rien vu d'étrange. Après, je sais que ça arrive. Tu vois des témoignages sur Instagram qui disent que ils ont eu des réflexions de professeurs dire non, toi tu n'es pas une fée parce que tu es un garçon. Moi, j'ai jamais eu ça. Ça s'est plus reflété chez les enfants parce que les enfants c'est hyper cruel quand c'est petit. Enfin, ça partait de... Moi, j'ai eu beaucoup... on m'a étiqueté l'étiquette de fille manquée. Enfin, que je suis pas un vrai mec, je suis une petite fille, je suis une fille manquée, je suis un PD, je suis gay, plein de choses comme ça, plein de choses violentes. Mais après, j'y faisais pas trop attention parce que moi, je kiffais ce que je faisais. Puis voilà, j'ai jamais eu de problème. Après, ça fait mal quand t'es petit, tu te poses des questions. Tu te dis, mais du coup... je suis vraiment un mec ou je sais pas, tu te poses des questions. Moi, pendant longtemps, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être une fille. Je me souviens, j'ai une anecdote, je sais pas si c'est vrai, parce que peut-être c'est un sort de souvenir écran, genre, que j'ai inventé, mais je me souviens que ma mère, elle m'annonçait qu'on allait à Disneyland, et genre, elle me fait, ouais, Rory, on va réaliser un de tes grands rêves, et je lui fais, je vais devenir une fille. Et genre, du coup, bah, elle sait pas trop comment réagir, mais au final, enfin, elle me dit non, tu vas à Disneyland, puis voilà, mais après, j'ai vite réalisé que je voulais pas être.
C'est plus facile d'aller à Disneyland.
Oui, mais c'était cool aussi. Mais après, j'ai vite réalisé que j'étais un garçon, que j'aimais le sexe et le genre qui m'était attitré. Enfin, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. J'ai eu des doutes dans ma vie. On en parlera plus tard, sans doute. Et puis voilà, enfin, c'est, en fait, genre, j'ai réalisé que je voulais pas être une fille parce que, bah, genre, j'étais bien. Dans qui j'étais, puis aussi, enfin, moi, j'ai une période avec, j'ai eu des expériences avec des filles qui ont été un peu chiantes. Du coup, j'ai dit, ah putain, quand j'étais petite, là, je fais, ouais, les filles, c'est un peu casse-couille. Du coup, j'ai pas envie d'être une fille, gnagnagna. Alors qu'au final, toute ma vie, genre, j'ai passé la plupart de mon temps avec des filles parce que je ne retrouvais pas mon compte chez les garçons.
C'était quoi tes expériences avec des filles un peu chiantes?
Alors, en gros, quand j'étais petit, j'avais un groupe d'amis constitué que de filles. Moi, je traînais pas parce que souvent à l'école, t'as les filles qui jouent à faire de la gym, à jouer aux jeunes filles, et t'as les garçons qui jouent au foot, à la bagarre, ou des fois il y a filles attrape garçons, enfin des trucs comme ça. Et moi, bah ça m'intéressait pas. Du coup, je traînais avec des filles et j'avais une amie qui est restée mon amie pendant longtemps. Maintenant, bah j'ai plus de contact avec elle. Et cette personne était un peu la dominante dans le groupe, qui un peu décidait qui était ton ami, qui était pas ton ami. Mm-hmm. J'ai eu des problèmes de santé à une période. Bon, j'ai eu de la constipation quand j'étais petit, donc voilà. Et cette personne a retourné tous mes amis par rapport à ça, qui m'a mis mal. Enfin, après on fuyait et tout. Au final, ça s'est passé. Cette personne s'est excusée. Mais toute ma vie, j'ai eu un peu cette relation avec cette personne de je domine un peu genre tes relations, ceci, cela. Et du coup, ça a été une très mauvaise expérience. Puis maintenant, je m'en suis détachée. Puis voilà quoi.
Est-ce que, du coup, tu me disais que les autres enfants pouvaient être cruels parce que tu rentrais pas dans les codes de c'est quoi une fille, c'est quoi un garçon? Est-ce que tu pouvais en parler à des adultes ou à des gens autour de toi, ou est-ce que tu restais un peu tout seul avec ça?
Je sais pas trop, parce que, du coup, il y a eu cette expérience avec cette fille, mais après, toutes mes autres amies, elles étaient hyper bienveillantes. Enfin, des fois, on me trouvait pas normale, mais enfin, au final, on m'aimait bien comme j'étais. Parce que sinon, c'était pas mes amis, mais enfin, du coup, j'en parlais pas forcément parce que moi, voilà, genre, je voyais pas le mal, en fait. Moi, j'étais là, je vivais ma vie de petit garçon, puis voilà, si j'aimais les poupées, j'aimais les poupées. Si je voulais mettre du maquillage, je mettais du maquillage. Si je me déguisais, moi, chez moi, j'avais une collection de déguisements, mais iconiques, et vraiment, genre, je passais mes après-midi avec mes amis à faire les Energy Music Awards, on chantait Sheriff Aluna et tout, c'était génial. Et du coup, enfin, moi-même, voilà, j'ai eu des parents qui, du coup, n'ont pas fait la différence en mode, toi, Rory, tu dois pas faire comme ta sœur, tu dois pas faire ceci, tu dois pas faire cela. Du coup, c'est plutôt cool. Du coup, j'ai vraiment jamais eu besoin de me confier à quelqu'un, parce que pour moi je trouvais ça normal, et si les gens ça les convenait pas, bah bisous, enfin genre voilà quoi, genre je sais pas trop quoi dire.
Est-ce que t'as des frères ou des sœurs?
J'ai une sœur et une demi-sœur que je vois pas trop, mais bah du coup j'ai une sœur avec qui j'ai grandi.
C'est ta grande sœur ou ta petite sœur?
C'est ma grande sœur, on a 4 ans d'écart.
Et ça se passait comment, du coup, la vie à la maison avec ta sœur?
Quand on était petits, on se bagarrait. On s'aimait beaucoup. Après, bah, du coup, il y avait des conflits. On pouvait pas forcément tout le temps jouer ensemble. Vraiment, on se bagarrait violemment. Mais après, on a grandi. Et c'est à partir du lycée où, en gros, ma sœur avait été passée au lycée. Puis elle m'a dit, Rory, tu vas rentrer au lycée, tu vas changer. Je suis ravie de connaître la personne que tu vas être après. Et du coup, voilà. Et au final, maintenant, on s'entend, mais à merveille. Je l'adore vraiment. Genre, Eva, je t'aime si tu passes par là.
Bisous, Eva.
Mais vraiment, genre, je l'adore. J'ai eu la chance, du coup, d'avoir qu'une grande sœur. Du coup, j'étais pas seule. Et en plus, j'avais pas forcément trop de personnes avec qui, à assimiler ou quoi que ce soit. Du coup, genre, avec ma sœur, ça a été un exemple pour moi de force, parce que malheureusement au lycée elle s'est à moitié fait harceler, du coup c'était pas hyper compliqué, mais elle l'assimilait pas comme ça parce que c'était à l'époque où moi j'étais au collège, du coup on parlait pas trop d'harcèlement scolaire, de ceci, de cela, on l'insultait plus, et puis du coup moi je la voyais pas forcément bien pour plein d'autres choses aussi, mais au final elle s'en est sortie, puis maintenant elle vit sa vie, puis moi je la trouve hyper forte, ma sœur, enfin voilà.
Et j'aimerais bien savoir, c'est quel genre d'homme ton père? Parce que c'est un sujet qui est récurrent dans le Boys Club, le rapport au père, dans la construction de la masculinité. Et je me dis que, dans ma tête, c'est rare un père qui est à l'aise avec le fait que son fils joue au Barbie, se déguise en princesse, etc. Du coup, j'aimerais bien savoir, c'est quel genre de mec ton père?
Alors, mon papa vient de Madagascar. Je sais très peu de choses sur sa vie d'avant. Il en parle pas trop. Je pense que c'était pas forcément hyper rose. Mais en tout cas, il ne veut pas reproduire les erreurs qu'on a pu lui faire subir ou autre. Je sais vraiment, c'est un peu flou. Faudrait peut-être que je lui en parle un jour, je sais pas. Et aussi, j'ai pas vraiment grandi avec lui. C'est-à-dire que mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans. Ils se sont remis ensemble quand j'avais 8 ans, mais ils ont toujours fait maison à part parce que leur caractère était beaucoup trop fort pour habiter sous le même toit et pour pas nous faire souffrir et tout, mais il fallait mieux qu'ils aient chacun leur chez soi, mais ils se voyaient le week-end, ils venaient chez nous, on allait chez lui. Et quand j'étais petite, j'ai jamais été séparée de lui parce que ma mère me forçait, mais m'incitait à aller tous les week-ends parce que c'était pas son but de nous diviser avec lui. Du coup, mon père, en fait, c'est quelqu'un de très chill, enfin, très joyeux, enfin, il me laisse faire mes choses, il veut que mon bonheur, du coup, en soi. Enfin, il me laissera jamais ne pas faire des choses, même si, enfin, en soi, des fois, c'est pas des choses que peut-être lui ferait en tant qu'homme ou quoi que ce soit. Du coup, mais par exemple, quand j'ai fait mon coming out à ma maman, elle a lui en parler. Mon père, il a fait qu'il fasse ses expériences. On s'en fout, c'est notre fils. Et puis voilà, quoi. Enfin, genre, il m'a jamais mis de barrière. Quand j'étais petit, je le maquillais, on lui faisait des tresses vu qu'il a les cheveux très longs. Du coup, enfin, vraiment, il m'a jamais mis de barrière par rapport à ça. Puis il m'a toujours aimé comme j'étais.
Ok, c'est cool. Comment ça se passe l'arrivée à la puberté du coup ? C'est souvent un moment où les rôles genrés se cristallisent et y a tout le bail des hormones en folie.
Ouais.
Du coup, t'as fait tout coming out, donc t'es homosexuel. Il y a aussi cette prise de conscience là qui arrive. Comment ça se passe la puberté pour toi ?
La puberté, du coup, ça doit être. Moi, c'était au collège. Ça s'est passé. Je m'en souviens pas trop. Enfin, j'ai jamais eu d'épisode hyper marquant dans ça, à part du coup, la réalisation du fait que je sois gay. Après, j'ai pris beaucoup de recul sur moi quand j'étais plus jeune. Voilà, je rentrais peut-être plus quand je suis arrivée au collège, justement, je rentrais peut-être plus dans les codes, même si j'étais quand même assez extraverti. Enfin, j'avais des looks, je portais des pantalons rouges avec des hauts bleus. Enfin, voilà, du coup, je me faisais remarquer, mais après, enfin, j'ai jamais eu d'épisode marquant dans ma puberté, sauf du coup, ouais, ma réalisation d'homosexualité, quoi.
Comment ça s'est passé, ça?
Du coup, comme je te l'ai dit, l'homosexualité, en tout cas, on me l'a ramené dès mon enfance. Enfin, même avant que je le sache que c'était, avant que je sache, du coup, si je l'étais ou non. On m'a toujours dit, oui, t'es pédé. Ça allait hyper loin parce que, genre, j'ai déjà eu, avec cette fille avec qui je parle plus, on est resté amis pendant longtemps. Et du coup, au collège, elle m'avait fait, ouais, de toute façon, moi, je parie que tu seras gay à la fin. Et du coup, je fais, ouais, je sais pas. Et du coup, on me l'a tellement rappelé de manière néfaste. Du coup, moi, genre, à la fin, je serais, non, je serais pas gay, je suis pas gay, c'est cela. Et quand je l'ai réalisé, je me souviens, du coup, j'étais avec cette même fille qui avait grandi. Du coup, au final, elle avait plus trop ces idées-là. Et on était dans sa chambre et je lui fais, on parle d'un mec, genre un mec qui était au collège. Et en gros, je lui dis, je lui parle que, ouais, il m'a dit ceci, cela. Et après, genre, je fais, ah, peut-être que je suis gay en rigolant. Un petit blanc de 5 secondes. Et moi, je me mets à fondre en larmes. Enfin, genre, j'étais là en mode, mais quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je pense? Et cela. Enfin, genre, mon avis sur la question n'était pas forcément néfaste parce que moi, genre, j'étais pour le mariage homosexuel parce que je l'ai réalisé après. Je l'ai réalisé quand j'avais 14-15 ans. Du coup, c'était quelques années après. Mm-hmm. Du coup, ouais, mon petit monde s'était effondré en mode, mais qui je suis? Comment ça? Comment je vais faire pour avoir des enfants? Alors que, j'avais 14 ans, j'allais pas avoir des enfants demain, quoi. Enfin, et genre, je me posais beaucoup de questions. Et au final, ça s'est passé pendant quelques temps. Après ce soir-là où on en a parlé, j'en ai plus trop parlé, puis ça arrivait avant le lycée.
Et donc, elle, à ce moment-là, elle a été bienveillante. Tu dis, elle avait grandi, donc elle t'a rassurée.
Oui, même en soi,
je pense
qu'elle disait en rigolant, en mode, tu vas être homosexuelle. Enfin, c'était pas de manière néfaste, mais moi, vu qu'on me l'avait ramené de manière néfaste, je trouvais ça un peu péjoratif qu'elle me dise ça. Enfin, et même, tous les clichés qu'on a par rapport à ça, moi, quand j'étais jeune, il y avait très peu d'identification que je pouvais avoir face à l'homosexualité. Enfin, à part dans Secret Story, moi, j'ai cet exemple-là avec Brigitte et Josiane, des personnes exubérantes et tout, hyper cool en soi. Mais moi, genre, au final, quand j'ai grandi, je me suis pas du tout identifié à ça, et puis même je voyais très peu de représentations homosexuelles, que ce soit dans les médias, dans les séries, dans les films quand j'étais plus jeune. Maintenant, bon, ça s'est un peu ça s'est amélioré clairement, du coup c'est plutôt cool. On en était où?
Que du coup, en fait, elle t'a rassuré parce que à ce moment-là, pour toi, c'était quelque chose qu'on t'avait toujours envoyé comme une insulte, et du coup, même si j'ai envie de dire politiquement, on va dire, t'avais pas de problème avec le fait qu'il y ait des gens homosexuels. Le fait de te dire que toi, tu l'étais, ça devenait quelque chose de négatif qui te faisait peur, quoi.
Ouais, c'est ça. Enfin, genre sur le moment je me posais plein de questions, comment je vais le dire à mes parents, comment je vais l'assumer dans la rue, mais qui je suis, qui je vais être, est-ce que ceci, est-ce que cela. Puis au final du coup elle m'a rassurée, elle m'a fait mais enfin te pose pas toutes ces questions maintenant. Après on a dormi, le lendemain on en a pas forcément parlé parce que moi ça m'était sorti de la tête. Moi souvent quand je suis très émotionnelle le soir, enfin j'ai plein d'émotions, j'envoie des messages, j'appelle les gens, je leur dis je t'aime et tout, puis le lendemain matin je fais ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, mais du coup le lendemain ça allait mieux. Puis c'était quand j'avais 14 ans du coup. Quelques mois après, avant de rentrer au lycée, je l'ai réalisé, mais là je l'ai beaucoup mieux réalisé. J'ai fait bah ouais, t'es gay. Mais je pense aussi que j'avais cette pression parce que j'ai été au collège, enfin les gens sont toujours aussi méchants. Voilà, du coup, déjà que oui, on m'a insulté de ça au collège, du coup, j'avais pas envie en plus d'assumer cette charge de le dire, je suis gay. Et je pense qu'arrivé au lycée, je me suis libérée, je me suis dit, t'arrives dans un nouvel établissement, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, genre montre-toi comme tu es vraiment, et enfin, genre te mets pas de barrière, te mets pas de limite. Et du coup, bah voilà, je l'ai redit à cette personne. Au début, j'ai fait, je pense, je suis bi. Je l'ai dit à une personne, elle m'a fait, oh, trop cool et tout, voilà, genre, c'est bien que t'arrives à le dire. J'en ai parlé à mes meilleurs amis, qui m'ont pas du tout jugé. Enfin, la première personne à qui je l'ai dit, bisou Anna, bref.
On m'embrasse aussi.
Et du coup, enfin, la première personne que je lui ai dit, elle m'a dit, bah, c'est pas grave, enfin. Après, j'ai souvent eu cette phrase, enfin, on s'en doutait. Enfin, ça m'étonne pas, je tombe pas de ma chaise, enfin, un truc comme ça, alors que, bah, c'est juste encore des idées de clichés de dire oui, il est un peu efféminé, oui, il traîne avec des filles, oui, ceci, il doit être gay. Du coup, c'est pour ça qu'aussi on me ramenait à ça quand j'étais plus jeune. Du coup, j'ai eu beaucoup de phases, quand je faisais mon coming out avec mes amis, oui, je m'en doutais, enfin, on en a déjà parlé avec telle ou telle personne, on s'en doutait, enfin, voilà, fais ta vie. Et c'est cool, enfin, genre, on m'a toujours, il y a toujours une grande bienveillance autour de ça parce que, enfin, ça pose pas de problème, ça, pour moi, genre, dans mon cercle d'amis, ça n'a jamais posé de problème et ça le posera jamais. Parce que je ne suis pas le seul en plus.
J'allais te demander, est-ce qu'il y avait déjà... Alors, au collège, c'est peut-être un peu plus rare, mais ça peut arriver. Et au lycée, d'autres garçons et d'autres filles qui étaient out et qui pouvaient un peu montrer l'exemple de... Tu vois, on peut être out ici et ça va, quoi.
Du coup, moi, mes meilleurs amis, du coup, je les ai rencontrés au collège, en quatrième, je crois, et c'est toujours mes meilleurs amis. C'est vraiment genre des personnes que j'aime beaucoup. Et du coup, on n'a jamais eu de problème à parler de tout ça. Du coup, au collège, il y avait des amis à moi qui se posaient déjà la question, sauf qu'au final, que non, que oui, enfin, c'était un peu en recherche. Et du coup, j'ai une amie qui se considère qui est bisexuelle, enfin, elle se considère pas, elle l'est. Et sinon, après, j'ai encore élargi mon cercle d'amis, j'ai des amis bisexuels. Ouais, j'ai surtout des amis bisexuels, j'ai zéro ami homo-gay. Et j'ai un doute, c'est horrible. Si, je crois que j'ai une amie lesbienne. Voilà.
On l'embrasse.
Ouais, gros bisous à toi.
Juste, t'as grandi où? Parce que je pense que c'est très différent l'expérience de grandir en n'étant pas hétéro dans un petit collège de campagne ou dans un collège au centre de Paris, pour faire vraiment les deux extrêmes. Ce qui veut pas dire que l'un est plus tolérant que l'autre, mais en termes de mixité sociale, ça, je pense que ça peut jouer sur l'acceptation de soi-même.
J'ai grandi à Rennes, en Bretagne.
Tout à fait.
Voilà, j'ai grandi dans une ZUP, enfin quartier zone sensible, comme on dirait. Et du coup, mon collège, c'était un collège de ZEP. Mon lycée, bah après, c'était un lycée où, du coup, il y avait d'autres personnes qui venaient d'autour de la ville, enfin, de la métropole. Et au collège, bah, enfin, c'était plus compliqué. Je pense que je suis la personne de mon quartier qui est la plus différente, qu'on va dire, qui colle pas à l'image qu'on peut avoir de ce quartier. Enfin, voilà, je vois très peu, je vois zéro mec qui se maquille dans mon quartier. Je vois zéro mec qui porte des vêtements de femmes. Je vois très peu de personnes androgynes aussi. Et je vois, il y a des homosexuels, enfin, genre, voilà, mais après, je sais pas trop qui sont ces personnes, enfin, voilà.
Oui, il y a pas un bar gay où tu peux sortir le soir, faire tes premières.
Il y a zéro bar gay, enfin, il y en a un, il est bizarre. on était rentrés dans un truc, il y avait des gens qui étaient allongés sur des canapés qui disaient rien, et du coup, on est sortis, on a fait bon,
On va peut-être aller dans un bar, ouais. Plus fun.
Voilà, après, à Rennes, il y a quelques trucs, il y a quelques événements LGBT, il y a des associations comme à ma fac, il y a des événements drag aussi, il y a plein de choses. Après, c'est peut-être pas assez développé parce qu'on en entend pas énormément parler. Enfin, pendant longtemps, on cherchait des événements de Vogue et aussi des compétitions drag en boîte et tout, puis on en trouvait très peu.
Est-ce que tu peux expliquer le drag et le Vogue pour les gens qui savent ça?
Ça c'est
moi,
mon
je
dada.
Sais car je regarde RuPaul sur Netflix.
Ma passion. Du coup, le Vogue, on peut appeler ça le voguing, c'est une danse LGBT qui a été créé dans les années 50 dans le quartier de Harlem à New York. Bon, petite histoire, en gros, ça a été fait par les houses. Les houses, elles ont été créées par les dragues afro qui n'étaient pas assez représentées et même qui gagnaient pas forcément beaucoup de concours de beauté drague. Et dans ces houses, ces maisons, on a pu retrouver des jeunes LGBT qui étaient soit mis à la rue, soit qui voulaient trouver leur compte aussi, trouver une famille, trouver des personnes à qui parler de ça et tout. Puis au final, ils ont créé une danse, du coup, le voguing, qui est une danse très inspiré du coup des catwalks, des défilés de mode avec des grands gestes de bras assez exagérés. Puis c'est magnifique, c'est vraiment très beau. J'ai eu la chance de faire mon premier ballroom la semaine dernière à Paris.
Waouh, voilà. C'est quoi un ballroom?
Un ballroom, c'est une là c'était Africa Ballroom partie 3, c'était une compétition du coup internationale c'était une compétition internationale de danse. Il y avait aussi un peu de drag, il y avait des défilés, il y avait du face. Du coup c'est les femmes ou les hommes qui participent doivent faire leur plus beau visage, leur plus belle pose avec leur bouche, leurs yeux, leur regard de biche. Puis t'avais aussi le body où c'était des défilés très dénudés où tu voyais des corps de toute morphologie. Il y avait les fitness body, les laces body et tu les voyais avec plein de paillettes. C'était magnifique. Et en plus, il y avait Kiddy Smile qui était juré dans la compétition. Il y avait aussi d'autres noms comme Kayona Revlon, qui du coup fait partie de la maison Revlon. T'avais aussi Harry Debiche, je sais pas si tu vois c'est qui. C'est une danseuse Vogue, New Wave ou aussi Old Wave qui est une danseuse de Kiddy Smile dans ses concerts et qui milite beaucoup pour les queers et qui danse extrêmement bien. Du coup, vraiment, c'était trop trop cool. C'était mon cadeau d'anniversaire pour mes amis. Je les remercie.
Waouh, trop cool. D'où ça vient comment tu découvres en fait le, du coup, c'est pas dans le bar gay de Rennes où les gens sont allongés sur des canapés, j'imagine. Donc comment tu découvres le milieu drag, le milieu Vogue, comment tu, en fait, t'as une identité visuelle qui est hyper frappante. Voilà, là, ouais. T'as de l'eyeliner mieux que ce que je peux faire. Putain, t'as des traits de paillettes sous les yeux.
C'est très compliqué. Il faut des prières pour ce genre d'eyeliner, oui. Mais bon.
T'as une boucle d'oreille en forme de clé, t'as un bob en vinyle. Enfin, voilà, visuellement, clairement, tu sais te saper, tu sais te maquiller et tu sais avoir un look en entier. Donc, t'as un rapport à la mode qui est plus élaboré que celui de plein de mecs qui sont en jean t-shirt, tu vois. D'où ça, comment tu tombes là-dedans, tu vois?
Déjà pour tout ce qui est Vogue et drag, moi ça a été internet. Pour le Vogue, ça a été le clip Wannabe de Bilal Hassani où tu vois des pas de Vogue et tu vois aussi des vidéos YouTube de ça, mais tu vois pas forcément les noms. Et je me dis putain, c'est quoi cette danse et tout, ça a l'air trop stylé. Et en fait, c'est une vidéo que après son ami Spark Dyes qui a fait avec Bébé Rexha où elle dit me dis pas que tu Vogue dans cette vidéo. Et du coup, j'ai trouvé le nom de la danse, puis je suis allée me renseigner sur YouTube et j'ai vu des trucs, les gens se jettent par terre, des death drop, vraiment c'est trop stylé, faut aller voir, je vous conseille. Et tout ce qui est drag, ça a été grâce à RuPaul. Enfin, je pense que ça, il a inséré beaucoup le milieu drag en France par rapport à Netflix.
Juste parenthèse culture G. RuPaul's Drag Race, c'est une émission un concours de télé-réalité de drag queen. Donc, c'est des hommes qui s'habillent et qui se maquillent en femmes, qui se transforment en femmes. On dit transformiste en France, ouais. Mais le mot est plus très utilisé. Et donc, c'est un concours de drag qui existe depuis maintenant 11 ans et qui est mené par RuPaul, qui est probablement la drag queen la plus célèbre du monde. Et depuis quelques années, c'est disponible sur Netflix. Donc, il y aura un article dans la description du podcast si vous voulez vous renseigner. Il y a toutes les saisons sur Netflix. Je vous conseille de regarder au moins les 4 dernières parce qu'au tout début, il n'y avait pas trop de budget. Donc, ça peut être un peu dur de rentrer dedans quand tu ne connais pas. Mais c'est hyper impressionnant. Et du coup, il y a le maquillage, le look, la créativité, le jeu d'acteur, parce qu'il y a beaucoup de trucs où il faut jouer, il faut improviser, le chant, ou en tout cas le playback, la danse, enfin, il y a tout, et c'est vachement cool. Donc voilà, regardez RuPaul's Drag Race.
Moi, je vous conseille la saison 9 et la saison 11, je les ai adorées. Du coup, ouais, RuPaul, j'ai commencé avec la saison 6, j'avais pas trop accroché parce que bon, le budget était pas forcément fou. Et je suis revenue avec les saisons 9 et j'ai vu des drags vraiment avec des personnalités fortes, comme Sacha Velour, qui est vraiment genre ma drag queen que j'ai aimée et que j'adore toujours. Vraiment, je la trouve hyper impressionnante dans son personnage et même dans son talent. Et du coup, j'ai été très intéressée par ça. Moi, de toute façon, je me dis que dans ma vie, j'aimerais bien faire du drag, genre essayer, faire un show et tout. Mais pour l'instant, en vrai, ça demande du budget, de l'entraînement, parce que vraiment, genre, c'est hyper couteau suisse comme performance. Enfin, faut se maquiller, tu dois coudre, tu dois aussi avoir du talent dans l'acting, dans la danse, le chant. Vraiment, genre, c'est hyper impressionnant. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée parce que tu vois des hommes qui sont vraiment à l'aise avec ce côté féminin, qui n'ont pas de honte, qui sont assumés à se dire « Ouais, demain, je vais mettre une perruque, je vais aller en boîte et je vais gagner des sous comme ça. » Et avant, bah, quand tu voyais aussi, ouais, les shows transformistes qui avaient, comme tu dis, le nom transformiste, moi, je l'entendais plus. Genre, dans La France Incroyable Talent, c'était des trucs beaucoup plus caricaturaux, avec en train de faire Dalida, Sheila, ou plein de trucs comme ça. Du coup, genre, ça m'intéressait pas trop. Mais quand tu vois que le drag, ça a une personnalité, tu crées un personnage avec sa propre personnalité, ses
talents.
Oui,
c'est pas juste, il y a un aspect imitation. Il y a beaucoup de drag qui incarnent des stars. Donc, il y avait une candidate de RuPaul qui faisait Cher, qui était connue pour ça, et qui fait une, et il y avait une candidate qui faisait Britney Spears aussi, ouais, très très bien. Donc il y a de ça, mais il n'y a pas que de ça. Et la plupart des drag queens, elles créent leur propre personnage. Elles ne sont pas juste déguisées avec des gros guillemets en Britney ou en Katy Perry. Elles ont leur Sacha Velour. C'est le personnage que le mec, à la base, l'artiste a créé pour lui-même, quoi.
Ouais, et moi, j'ai déjà mon nom de drag.
C'est quoi?
En vrai, il est pas ouf. Ma drag queen s'appellerait Lily. Alors, c'est, pour l'histoire, en gros, c'est que pendant toute ma vie, pendant très très longtemps, jusqu'à tard, dans ma tête, j'avais un alter ego qui s'appelait Lily. Une jeune femme hyper talentueuse, qui faisait plein de choses, qui chantait, qui dansait. Et quand j'étais petite, du coup, quand je jouais aux jeunes filles, je m'appelais Lily, j'étais pop star. Du coup, c'était génial. Et je me dis, un peu en clin d'œil à ça, si un jour je fais du drag, je m'appellerais Lily et j'aurais ma meilleure perruque blonde très longue, cheveux bouclés, un très beau maquillage, des tenues de scène. Après, ça demande du budget, du coup, bah, de toute façon, si un jour vous entendez parler de moi ou de Lily, vous savez que c'était moi et que je viens de Boys Club.
Tout à fait, vous pourrez réécouter cette interview en disant « Oh, regarde comme il a grandi, maintenant c'est Lily ». Je profite de ce passage sur le drag pour faire une transition vers un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai pas eu encore beaucoup l'occasion de l'aborder dans le Boys Club. C'est le fait que t'es en surpoids et je pense que RuPaul, c'est une des émissions que j'ai vues où il y a le plus de représentations de différentes morphologies et où peut-être même que les mecs en surpoids ont un avantage parce que bah, pour recréer une silhouette féminine, du coup, c'est plus facile que quand t'es une tige, quoi, où du coup tu dois rajouter du rembourrage. Comment ça a fait de grandir en étant un mec en surpoids et du coup un mec androgyne ?
Du coup, quand j'étais plus petit, enfin j'ai commencé à prendre du poids, du coup, j'ai toujours été un enfant bien en chair, on va dire, mais j'ai commencé à prendre du poids lors de la séparation de mes parents, alors que je la vivais très bien, mais je pense qu'inconsciemment il y a eu des choses qui ont été refoulées ou autres, enfin psychologie. Et du coup, j'ai commencé à prendre du poids à cette période-là. Et ça s'est, bah, je vais pas dire que ça s'est jamais arrêté parce que maintenant je me stabilise. Du coup, ouais, quand j'étais petit, j'en souffrais, mais pas forcément parce que, genre, moi j'en souffrais, c'était plus parce que les autres me faisaient comprendre que c'était pas normal. Quand j'étais petit, j'ai été voir une nutritionniste et une diététicienne suite à mon problème de constipation, on se rappelle.
Oui, oui.
Et du coup, j'ai été voir cette nutritionniste, non, c'était pas une diététicienne, c'était une pédopsych, non, une pédiatre, voilà, c'était une pédiatre. Et cette pédiatre a des manières de travailler assez bizarres, c'est-à-dire qu'elle m'engueulait, qui me disait, ouais, Rory, je comprends pas, t'as 8 ans, t'as l'âge de raison, gna gna gna, pourquoi tu prends du poids? Mais vraiment très très violent. Et c'est-à-dire que pendant 2 semaines avant le rendez-vous, j'étais en pleurs devant ma mère et je lui disais, je ne veux pas y aller. Et c'est après, du coup, j'ai été voir une psychologue, une pédopsychiatre, du coup, qui a fait comprendre à ma mère qu'il fallait arrêter tout ça parce qu'on allait me détruire. Et du coup, c'est après ça que je me suis dit, enfin, moi, j'ai jamais demandé qu'on m'amène voir ça. On me l'a fait comprendre, on m'a dit, va voir ça. Du coup, maintenant, j'ai zéro problème avec ça. J'ai fait, de toute façon, si un jour tu veux perdre du poids, c'est toi qui perdras du poids, ce sera pas les autres qui te le forceront. T'es bien dans ton corps, t'es bien dans ceci, t'es bien dans cela, et emmerde le monde. Et si les gens te font comprendre que non, tu es trop gros, tu es trop ceci, tu es trop cela, bah, bisous et bah, laisse-moi vivre ma vie. Moi, c'est des choses qui m'énervent, ça, les gens qui peuvent pas comprendre que c'est mon dos, c'est pas leur dos à eux. C'est comme pour les méchants commentaires, quand tu vois une vidéo que t'aimes pas, bah, au lieu de cracher ta haine, juste retour, tu tapes un autre truc sur YouTube et puis voilà, c'est fini, enfin bisous et vite ta vie, quoi.
Est-ce que t'as un conseil que t'aimerais donner aux gens qui peut-être, en fait, quand t'as quelqu'un en surpoids dans ton entourage mais que toi-même t'es pas concerné, il peut y avoir un aspect d'inquiétude bienveillante, oui, pour sa santé et puis pour parfois la prise de poids cache des choses psychologiques, hein, comme tu l'expliques bien. Est-ce qu'il y a une bonne façon pour toi d'aborder le sujet? Comment t'aimerais que, disons, voilà, tu te fais un nouveau pote et il se dit, t'as Rory, j'ai peur que, tu vois, il ait des problèmes à long terme de santé et tout, et en même temps, bah, je suis pas sa mère et j'ai pas à lui dire quoi faire de sa vie. Comment t'aimerais qu'on vienne t'en parler? Pour faire une petite parenthèse, conseil aux proches de personnes en surpoids qui ont pas envie d'être maladroites, mais qui ont quand même envie d'aborder le sujet.
Moi, ça m'arrive, tu vois, que des amis me parlent de ça et tout, et moi, j'ai zéro problème avec ça. Enfin, je suis gros et voilà. Enfin, c'est quelque chose qui me représente. Après, c'est pas la seule chose qui me représente, heureusement. Du coup, j'ai vraiment pas de problème au fait qu'on puisse me venir en parler. De toute façon, moi, j'ai mes arguments, j'ai ce que je pense, ce que ceci, que cela, que de toute façon, c'est à moi. Mais je prendrais jamais mal quelqu'un qui vient me dire, ouais, Rory, mais pour ta santé, si c'est bien fait, si c'est fait avec bienveillance et tout, parce qu'il y a souvent des trucs cachés qui, par exemple, quand on dit, oui, mais pour ta santé, mais derrière, c'est aussi, ouais, le regard des autres, tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui m'importe très peu, le regard des autres. Moi, je vis ma vie. Et du coup, enfin, j'ai pas trop de conseils à dire. Moi, quand j'étais plus jeune, le conseil que qu'on aurait pu me donner, c'est de pas me le faire remarquer. J'aurais mieux grandi, j'aurais pas eu de complexe. Bon, j'en ai très peu aujourd'hui, j'ai réussi à avoir du recul sur ça. Mais ouais, vraiment, genre, de pas trop, quand on est jeune, voilà, faut s'en inquiéter parce que oui, ça arrive assez tôt. On peut s'en inquiéter. Après, quand on grandit, oui, il y a les aspects médicaux. Après, il y a les médecins qui te le rappellent, qui te le disent, qui te disent. Toute... Moi, j'ai une doctoresse très bienveillante qui me dit, de toute façon, si tu veux perdre du poids, on sera là et c'est toi qui le choisis. Et moi, je suis en mode, bah, ok, enfin, je vis ma vie et puis voilà, quoi. Et voilà, un jour, peut-être, j'aurai des problèmes de santé, ceci, cela, enfin. Moi, je vois pas forcément, c'est dangereux, mais je vois pas forcément le côté plus néfaste qu'autre chose d'une maladie ou ceci, cela. Enfin, après, souvent, il y a plein de gens qui disent, enfin, oui, c'est un choix, ceci, là. Moi, si je pouvais être une skinny bitch, tu vois, un autre truc comme ça, je le serais, tu vois, mais enfin, du coup, c'est pas qu'un choix, c'est aussi comment ton métabolisme prend les graisses. Moi, je mange pas plus mal que quelqu'un d'autre qui pourrait manger mal ou pas sainement. Enfin, moi, j'essaie d'avoir des repas assez équilibrés, voilà. Du coup, c'est comment aussi ton corps stocke les graisses. Voilà, j'ai des amis qui peuvent manger beaucoup plus que moi et qui prendront jamais rien. Et bah, elles ont la chance. Et puis bah voilà, moi je vais pas rager sur ça parce que bah, enfin c'est pas grave en soi.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool. Moi, je pense qu'un bon truc à se rappeler, c'est que les personnes en surpoids sont au courant qu'elles sont en surpoids.
Oui.
Donc voilà, comme tu dis, si c'est juste pour le faire remarquer, ça sert à rien. Après, s'il y a une intention bienveillante derrière et que c'est bien fait, pourquoi pas aborder le sujet, quoi.
Ouais, carrément.
Comment t'arrives à te saper? Je sais que la mode masculine, c'est souvent un peu basique, c'est un peu triste en termes de diversité. Donc je sais que toi, tu te sapes aussi chez les meufs. Et bah du coup, t'as le fait que t'es un mec qui s'habille dans des vêtements qui sont vendus au rayon féminin, même si, comme on l'a dit en intro de ce podcast, ça veut pas dire grand-chose. Et que en plus, t'es en surpoids, donc t'as pas forcément ton bonheur dans tous les magasins du monde. Comment t'as construit ce rapport à la mode et comment tu te sapes, comment tu fais les magasins?
Alors, pendant très longtemps, j'allais dans un magasin qui s'appelait Céa. T'en as parlé dans Laisse-moi kiffer pour tes
soutiens-gorge. Yes, ma passion.
Voilà. Et quand t'es jeune, voilà, tu t'habilles à Céa parce qu'il y a des grandes tailles. Ta maman qui dit, mais Rory, c'est pour ton ventre et t'as des pantalons slim, skinny, ta coupe droite. C'est triste. Et genre, moi, du coup, j'essayais un peu de faire à ma manière. Je coupais le bas, je foulais des feux de plancher. Ma mère, elle était désespérée. Et ça arrivait au lycée. En gros, j'ai découvert un site qui s'appelle Azos, qui est vraiment ma passion. Je fais à peu près une commande par mois. Vraiment, genre, je fais un très bon, je les remplis leur caisse.
S'ils veulent venir sponsoriser le Boys Club, Azos, on prend. Merci, on prend l'argent, n'hésitez pas.
Moi aussi, si vous voulez qu'on fasse des trucs ensemble, si vous voulez sponsoriser que je fasse mannequin ou autre, moi je suis hyper chaud, j'aime trop cette marque, vraiment ce qu'ils dégagent, c'est hyper... Enfin, vraiment, j'ai trouvé mon bonheur dans ça chez les hommes au début. Du coup, j'ai commencé à m'habiller au lycée en première terminale parce qu'en seconde, j'avais un très mauvais rapport avec les fringues. Je mettais juste des trucs moches et confortables. Puis un moment, j'étais là, je fais, enfin, Rory, ressaisis-toi, merde. Et arrivé au lycée, j'ai commencé à chercher plein de choses et j'ai découvert Azos. J'ai acheté un sweat Puma bleu pastel que je mets encore, que j'adore, que même j'ai découpé en crop parce qu'il était beaucoup trop long pour moi. Parce qu'en vrai, en plus, en étant, je suis gros et en plus, j'aime bien les vêtements larges, oversize pour me sentir à l'aise, pour être libéré en soirée, pour twerker, pour faire ce que tu veux. Du coup, c'était très compliqué de trouver ça en magasin et Azos, ça a été le bon compromis. C'est un peu cher comparé à certaines marques comme CA. Du coup, CA, je trouve ça un peu moins cher. Mais c'est des très belles pièces, que ce soit chez les hommes ou les femmes. J'ai commencé chez les hommes jusqu'en terminale et après, j'ai découvert les pantalons féminins, c'est-à-dire les pantalons très fluides, à rayures, alors que chez les hommes, ça reste toujours des coupes assez droites, assez basiques, et souvent en jean ou en cargo, ou je sais pas trop, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Et maintenant, mes pantalons, je pense que la dernière fois que j'ai acheté un pantalon chez les hommes, c'était il y a un an ou deux. Maintenant, je trouve mon bonheur chez les femmes, là, je porte actuellement un jean boyfriend, que j'adore, parce que, enfin... Même, je sais pas, genre chez les hommes, il y a tellement moins de coupes, je trouve ça très triste, et genre...
Oui, et c'est hyper ironique, parce qu'à la base, le jean boyfriend... C'est un jean pour femme qui est censé donner l'impression que t'as piqué un jean à ton mec, mais en étant taillé pour les femmes, parce que typiquement, la plupart des femmes ont des hanches plus larges que la plupart des hommes, donc en fait, moi, je peux pas emprunter un jean à un mec parce que la plupart des mecs, je rentre pas mon boule dans leur jean, et ça fait pas du tout genre effet boyfriend un peu large, tu vois, ça fait juste genre ce jean est trop petit pour moi. Du coup, ils ont créé le jean boyfriend qui est un jean pour femme qui est censé donner l'impression que t'as piqué un jean à ton mec. Et là, la boucle est bouclée puisque t'es un mec qui porte un jean boyfriend, donc t'es un mec qui porte un jean pour femme qui est censé faire croire que c'est un jean pour mec. C'est bien la preuve que pour mec et pour femme, ça veut pas dire grand chose au final et que c'est juste une coupe, quoi.
De toute façon, moi, dans la société, je suis là pour brainfuck les gens. Donc, voilà. Mais, ouais, en plus, moi, je trouve vraiment pas que ma coupe de boyfriend que j'ai, elle, j'ai jamais trouvé ça. J'ai un jean de mec. Enfin, même si je le prends une taille au-dessus, ça fera pas ça. Ce sera coupe droite, skinny, assez moche. Et vraiment, chez les femmes, t'as tellement plus de choix, t'as tellement plus de modèles, de matières, de couleurs. Et enfin, vraiment, genre, c'est ce qui m'a appris à vraiment aimer la mode, à m'intéresser à ça, à créer des looks. Et même, vu que maintenant, bah, des fois, j'achète des suites, j'ai acheté des suites chez des mecs et tout. Et maintenant, je suis, oh, ils sont trop longs et tout. Moi, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus court. Je prends un ciseau ou un couteau, je déchire ça. Et puis après, je fais mon crop top. Et maintenant, genre, la mode, pour moi, c'est un peu aussi, genre, m'approprier mon style et puis bah un peu modifier les choses puis casser les codes. Enfin, moi, mon but, c'est même pas un but, c'est ma façon d'être, c'est de casser les codes. Et j'ai pas envie de rentrer dans porter un skinny et un jean blanc, un haut blanc, alors qu'il y a plein de mecs qui font ça. Mais enfin, moi, si c'est pour ça, enfin, ça sert à quoi s'habiller, quoi? Enfin,
autant se mettre en jogging et puis voilà.
Mais bah voilà, carrément, c'est plus à l'aise.
Est-ce que t'as déjà testé les jupes?
Non, ça c'est même pas, genre, c'est juste que moi, genre, je sais pas, je sais pas si c'est confo ou quoi. Quand j'étais petit, j'en mettais. Enfin, chez moi, j'avais mes meilleures robes, mes meilleures jupes que je piquais à ma sœur. Mais non, j'ai jamais testé les jupes et j'aimerais bien. J'ai vu une robe sur Asos magnifique que j'ai dit à mes amis, je les mettrai à leurs enterrements. Mais bon, c'est pas hyper cool. Mais vraiment, genre très très belle avec des froufrous un peu coupés devant et tout. Mais elle coûtait 140 euros.
Yes, c'est un budget, bon, l'expérimentation.
Ah oui, du coup, je fais pour faire une photo Insta. On va peut-être aller prendre dans tes vêtements à toi, Rory.
Après, je sais que t'es à Paris que pour deux jours, mais il y a pas mal de friperies où ça pourrait être intéressant, ouais, que t'ailles jeter un œil pour justement tester des trucs sans claquer 140 euros, quoi.
Ouais, je vais essayer d'aller demain en friperie.
Et le maquillage, du coup, comment tu viens à... En fait, c'est quand même hyper rare de voir des mecs maquillés dans la rue. Donc là, t'as de l'eyeliner, un trait de paillettes, du vernis, plus une boucle d'oreille un peu pendante. Qu'est-ce qui fait que t'as dit... Enfin, je vais faire un peu vieille code, mais t'as seulement 19 ans et t'es déjà tellement détendu avec tout ça.
Alors, en gros, moi, tout vient d'un nouvel an qui est un peu sous le prétexte d'acheter du maquillage, de faire passer ça à sa maman, d'un thème paillettes. Et avec la mode des festivals qui est arrivée, qui a beaucoup plus émergé, moi, arrivée au lycée, j'entendais beaucoup parler de festivals. La mode, c'était les paillettes. Moi, j'adore les paillettes. Vraiment, je vis paillettes. Et du coup, le thème du coup de ce nouvel an était paillettes. J'ai acheté une crème chez NYX pailletée dorée, que après, j'ai réutilisé en tant qu'highlighter que je mettais au lycée, ouais, en terminale, avant le bac. Puis arrivé pendant les vacances avant la fac, j'ai décidé de m'acheter mon propre highlighter, un highlighter à monoprix à 8 euros et ça faisait le taf. Puis après, j'ai fait surtout à l'envie. Enfin, je me souviens, je mettais que de l'highlighter, je mettais un peu de mascara pour un peu noircir mon regard. Et après, c'est juste que j'entendais des gens, par exemple, j'ai eu des personnes que j'ai rencontrées à la fac en soirée étudiante qui m'ont dit « Ouais, la dernière fois que t'avais de l'eyeliner, c'était trop stylé. » Je fais « Mais j'ai jamais mis d'eyeliner, en fait. » Puis après, je me suis dit « Ah, ça pourrait être pas mal, en fait. » Et l'année dernière, j'ai passé toute mon année à m'entraîner, à prier, à refaire 50 fois, à m'énerver. Puis au final, maintenant...
C'est très long. Sachez, ouais, que quand vous voyez quelqu'un avec un eyeliner symétrique, cette personne a des mois d'entraînement derrière elle minimum.
Non, mais surtout que maintenant, genre, je m'en fous un peu de s'il est pas hyper droit ou pas ceci, pas cela, tant qu'il me plaît. Et surtout que j'ai acheté un eyeliner chez Kiko qui a un bout un peu biseauté qui est parfait pour faire des traits hyper droits. Du coup, je vous le conseille. Et du coup, ouais, je fais beaucoup à l'envie. J'ai commencé par, ouais, j'ai fait du coup l'eyeliner. Après, il y a eu Halloween. J'ai acheté un rouge à lèvres noir. Je mets très peu de rouge à lèvres. Je préfère le gloss un peu brillant, pulpant. Je trouve que ça fait un côté un peu luisant, un peu glowy que j'adore. Du coup, ouais, j'adore les paillettes, l'highlighter, le glow, tout ça, tout ça. Après, du coup, c'est venu le vernis à ongles parce que je fais mes ongles qui sont un peu tristes. Enfin, ça pourrait être très joli, un vernis à ongles noir, et je mets que ça maintenant. Ça va très bien avec les tenues en plus. Après, j'ai fait l'étape du coup du fard à paupières. J'en mets très très peu. J'en mets surtout pour les photos ou les soirées parce que sinon, moi, l'été, je transpire, ça part, ça bouge et tout. Du coup, j'en mets pour les soirées, ouais, pour faire des photos aussi. Là, j'ai fait des photos qui sont pas encore sorties, qui vont sortir le jour de l'apparition du Boys Club. J'ai fait exprès.
Oh my God.
Je te les montrerai après si tu veux en prendre une pour la vignette.
Oui, carrément.
Voilà, qui font très diva avec plein de paillettes très. Très, très stylé. Et du coup, ouais, je fais plus pour ça. Après, j'ai commandé la Morphe James Charles avec plein de couleurs assez aussi chaudes et basiques. Parce qu'avant, moi, le fard à paupières, je l'utilisais en tant que très flash, pour très extravagant, très soirée. Mais maintenant, je me dis pourquoi pas avoir un peu de marron et de rosé sur les yeux pour aller à la fac ou autre, tu vois. Et sinon, ouais, je me suis arrêtée là dans le maquillage. J'ai pas encore passé l'étape du fond de teint parce que j'aime bien mon grain de peau. J'ai zéro complexe par rapport
T'as
à ça.
T'as une belle peau.
Merci, toi aussi.
Merci, mais moi j'ai du fond de teint.
Ah bon ? On dirait pas. Voilà. Bon, bref.
Astuce. Quand c'est bien fait, on dirait pas qu'on en a.
Ouais.
Tu me disais dans ton message de candidature, entre guillemets, au Boys Club, que, en fait, il y a une partie des gens qui pensent que t'es une femme quand ils te voient dans la rue et qui te connaissent pas. Et que, du coup, t'avais vécu des expériences plutôt réservées aux femmes, de type le harcèlement de rue et tout.
Super, j'ai eu la chance, la chance de subir ça. Mais c'est vrai qu'en plus, genre, au lieu de déjà avoir un look, j'ai un look très androgyne, mais j'ai en plus un physique très androgyne par le fait de mon surpoids, que j'ai des hanches, j'ai des fesses, et des fois, on peut croire que j'ai des seins. Et du coup, j'ai subi. En vrai, je vais pas dire que c'est light parce que tout harcèlement de rue ou agression de rue sont à plaindre et à notifier. J'ai subi des regards tout à l'heure. Par exemple, j'étais posée à Pigalle pour manger. Je voulais aller voir un peu le Moulin Rouge. Je voulais faire le touriste et je me suis posée. Et en 20 minutes, il y a au moins 5 mecs qui m'ont regardé, qui m'ont mangé du regard et des bonjours un peu glauques. Un mec qui me demande l'heure, mais après qui me suit à moi, qui reste à mon pas. Et du coup, je fais genre, je m'arrête devant un sextoy. Je fais, le sextoy, il est sympa. Faut qu'après, il continue. Mais après, il s'est réarrêté. Du coup, j'ai eu un peu peur. Après, j'avais mes écouteurs. J'étais fermée dans la discussion. Du coup, il a pas pu me parler. Et souvent aussi, du coup, à Rennes, ça m'arrive plus rarement. J'ai eu aussi, oui, du coup, des regards, des demandes de numéros, de... Du coup, moi, je fais « Ah non, désolé, j'ai un copain, je veux pas dire que je suis un garçon parce que je sais pas comment la personne peut réagir. Je sais pas si cette personne peut avoir des trucs comme « Ah, mais t'es un garçon, enfin, t'es pédé » ou trucs comme ça. Moi, j'ai pas envie de chercher ça, je préfère me dire « Désolé, j'ai un copain, c'est cela » ou partir, enfin, directement ne pas répondre et faire « enfin, au klaxon et tout. Je crois que j'ai déjà eu une main aux fesses, mais je suis pas sûre. C'est que j'étais en festival, on était au McDo, on attendait, c'était la fin du festival, et c'est qu'il y a un mec qui passe, et je sens une main sur mes fesses, sauf que je sais pas si le mec s'est frotté ou si c'est ça, du coup, présomption d'innocence. Sinon, j'ai eu quoi d'autre? J'ai honte de raconter ça. J'avais bu beaucoup de jus de goyave. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à cause de ma modération. Un peu éméché, je tombe pas par terre, mais je m'assois pour attendre le bus et je commence à twerker pour rigoler avec mes amis. Un mec s'arrête en voiture, il me fait « Ouais, gnagnagna, on va te ramener à l'hôtel. » Et du coup, mes amis se sont à moitié embrouillés avec lui. Bon, au final, ça c'est très bien fini. Enfin, le mec a voulu faire le show à sortir en mode « Ouais, je vais te péter la gueule. » Ma pote était fait « Mais calme-toi, enfin... » C'est toi qui cherches la merde, enfin, dégage. Puis au final, il est parti. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu sinon aussi des expériences un peu sexistes où j'étais à la gare, j'avais perdu mon portefeuille et j'allais aux objets trouvés. Puis j'étais avec du coup un ami à moi et deux amis à moi, des deux filles et un garçon du coup. Et la personne se dirige directement vers mon ami masculin pour nous diriger l'accès aux objets trouvés. Et j'étais là en mode, enfin, pourquoi lui et pas le groupe en général? Du coup, j'en ai eu, je crois que j'ai fait le tour de toutes les agressions ou harcèlements que j'ai pu avoir.
C'est déjà pas
oui,
mal.
C'est
hein,
pas
dans
mal.
Une
enfin,
vie
j'aurais
de...
pu m'en passer.
Oui, clairement, on pourrait toutes s'en passer. Comment tu vis le fait de non seulement d'être parfois identifiée à tort en tant que femme, mais en plus du coup que ça t'attire des problèmes puisque si t'étais identifiée comme mec, tu pourrais te faire emmerder dans la rue, mais différemment, clairement pas de la même façon.
Ouais, excuse-moi, je vais boire de l'eau.
Oui, oui, hydratez-vous, c'est très important. Ceci est un message de prévention du Boys Club. Hydratez-vous, je crois que c'est quoi ? 1,5 litre d'eau par jour, c'est très bien. On rappelle que l'alcool et le jus de goyave, ça n'hydrate pas vraiment, c'est trop sucré. Donc, de l'eau, c'est bien. En fait, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui vivraient le fait d'être identifié comme une femme, comme une atteinte à leur masculinité. Et je sais que pour plein de mecs, se traiter de gonzesse, c'est une insulte. Dire « ça va, fais pas ta fillette », c'est une insulte, tu vois. Toi, t'es régulièrement pris pour une femme dans l'espace public?
Tous les jours. Enfin, aussi, ouais, quand j'étais petite, du coup, j'entendais souvent, ouais, fais pas ta fillette, fais pas ceci, fais pas cela. Du coup, on le prenait ça péjorativement. Heureusement, maintenant, il y a Lizzo, une très bonne femme, une très bonne chanteuse que je vais voir ce soir, qui a fait sa chanson Like a Girl, que j'ai entendu parler dans Laisse-moi kiffer, et qui un peu démonte tout ce truc de faire les choses comme une fille, c'est pas grave. Et du coup, quand j'entends cette chanson, je fais, ouais, si je fais les choses comme une fille, c'est quoi, c'est pas grave? Bon, voilà, petite parenthèse. Et du coup, ouais, moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, qu'on m'identifie en tant que femme. Ça m'arrive vraiment très souvent. Du coup, si je devais le prendre mal tous les jours, je m'en sortirais pas. Et au final, vu que outre le fait d'avoir un physique androgyne, je cultive ce côté androgyne avec mon style. Du coup, en soi, je le subis même pas, ça. Enfin, moi, je suis là en mode, moi, je m'en fous un peu. J'aimerais bien qu'il y ait plus de genre dans cette société. Mais bon, ça va être compliqué.
On y travaille.
Ouais. Mais du coup, ça peut passer de la boulangère ou à la personne qui va me bousculer. Ah, mes professeurs, pendant très longtemps, j'ai une prof, putain. C'était en première, j'ai une prof qui... Je traînais avec des filles. Et du coup, elle nous appelait les filles. Et au premier cours, je vais la voir. Je lui dis, par contre, madame, c'est pas pour vous déranger ou pour vous mettre dans une situation un peu mal à l'aise, mais je suis un garçon. Et j'ai plusieurs réactions par rapport à ça. Il y en a qui font, oui, oui, je sais et tout. Elle me fait, ah oui, oui, c'est bon, c'est une erreur, t'inquiète pas. Mais toute l'année, elle me disait les filles. Puis après, elle disait, ah non, pardon, Rory et Tiffen. Bon, je pense que ça te dérange pas que je lui donne son nom. Et du coup, moi, j'étais mort de rire par rapport à ça parce que je m'en foutais. Mais elle, ça la mettait dans une situation très mal à l'aise. Du coup, quand je sais que je vais pas revoir les personnes, je dis pas. Enfin, je m'en fous un peu. Genre, je vais te voir trois fois dans ma vie. Je vais pas te dire que tu es un mec.
Ouais, tu vas pas dire à tous les boulangers du monde, en fait, non, je suis un garçon, je m'appelle Rory. C'est genre, oui. Ok, c'est bonjour madame. Voilà, ouais. Ça fera 1 euro madame. C'est pas grave.
Oui, bah voilà. Enfin, et bah ça fait rire un peu mes amis parce que bah surtout plus avant, maintenant on est habitué du coup on me le notifie. Mais maintenant, moi, je m'en rends même plus compte quand on me dit madame parce que c'est vraiment quotidien. Mais après, genre, il y avait des situations malaisantes où mes amis étaient là, morts de rire, alors que moi, j'étais en mode, s'il vous plaît, arrêtez. Ouais, genre, en vrai, ça me pose vraiment pas de problème. Enfin, moi, je suis plutôt à l'aise par rapport à ça. Vraiment, genre, je vois pas le mal qu'on fait, qu'on puisse m'associer à une fille parce que de toute façon, enfin, c'est rien pour moi. Enfin, c'est juste, oui, dans le long terme et même dans draguer les gens, c'est assez compliqué. Ouais, dans le long terme avec les amis pendant très longtemps, par exemple, à la fac, il y a des gens qui pensaient que j'étais une fille et qu'on traînait avec moi pendant 3 mois en pensant que j'étais une fille. Du coup, c'est un peu compliqué à la fin. Puis au final, on s'en rend compte parce que on me genre avec mon genre que de prédilection. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Et voilà, du coup, ça a pu faire des situations malaisantes pour les gens. Mais je pense que c'est plus les gens qui sont gênés quand ils se rendent compte que je suis un garçon que moi.
Excellente transition vers un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, mais qu'il va falloir qu'on aborde, qui est ta vie sentimentale et sexuelle. Du coup, je vais te poser la grande question. Cher Rory, comment va ta bite ?
Elle va très bien.
Yes.
Voilà, je sais pas trop quoi dire dessus. J'en prends soin, voilà. Mais je suis encore vierge. Voilà, j'ai jamais eu d'expérience que ce soit avec une fille ou un garçon. Que ce soit, oui, du coup, peut-être par mon androgynie, peut-être parce que je rentre pas dans les codes à cause de mon surpoids, je sais pas du tout, peut-être parce que j'ai jamais trouvé chaussures à mon pied, mais je passe un appel, si vous voulez, si vous êtes du côté de Rennes.
Si vous voulez rencontrer Rory et que vous êtes cool, il y a voilà. Son Instagram dans la description.
Carrément. Et si vous voulez voir mes vidéos aussi, je fais ma promotion maintenant, ce sera fait.
Tout à fait, allez suivre Rory sur YouTube.
Voilà, du coup, ça...
Après, en vrai, enfin, il n'y a pas de mauvais âge pour, il n'y a pas d'âge où c'est trop tard pour être vierge, mais 19
moi,
ans, t'es
fous.
Dans t'es... quasiment encore dans les moyennes, donc
moi je m'en fous totalement. Enfin, genre, j'ai eu des amis qui se sont mis la pression par rapport à ça, qui voulaient le faire au plus vite ou je sais pas quoi, ou ceci rentrer dans les codes, ceci cela, mais moi je m'en fous. De toute façon, la plupart de mes amis l'ont fait, du coup j'ai plein d'expériences, je sais comment ça se passe, que faut pas trop stresser, que je suis pas l'un des premiers à avoir sauté dans le bain puis à être tout stressé. Maintenant je sais comment ça doit se faire et quand ça se fera, ça se fera. Mais du coup, enfin, genre, j'attends pas le prince charmant, j'attends pas non plus un plan cul ou quoi que ce soit, j'attends pas une relation d'un soir, moi juste une personne qui me convient et avec qui j'ai confiance, que et ça peut passer oui du coup par un plan cul, par une relation d'un soir ou par ouais une relation à long terme. Enfin, moi je me mets pas de pression par rapport à ça et ça arrivera quand ça arrivera. Et du coup, ouais, je parlais du fait que c'est très compliqué par contre ça qu'on m'associe à une fille dans la drague, parce que j'ai beaucoup de mecs hétéros qui bah du coup qui m'harcèlent de rue déjà, puis aussi qui viennent me draguer. Et du coup, enfin, moi je suis là en mode mais je vais un peu frustrer ta masculinité, mais je suis un garçon. Et du coup, ça pose problème, et ça pose problème aussi pour moi de trouver aussi le grand amour, parce que dans la communauté LGBT, il y a aussi beaucoup de critères. Enfin, Bilal Hassani, il en a parlé dans son Boys Club. Je suis pas forcément une personne où un homme va se retourner, parce que souvent, voilà, les homosexuels peuvent rechercher des physiques virils, l'homme, le vrai, ceci, là, bah, tout dans les clichés de la société encore. Et du coup, ça peut être compliqué par rapport à ça. Après, j'ai fait un peu mes expériences sur les sites de rencontres, c'est un peu bizarre, vraiment. Et
bizarre à quel niveau ?
Bah, du coup, je peux être soit le critère physique de quelqu'un, mais aussi le fétiche. C'est qu'il y a une personne qui aime les j'ai parlé avec une personne qui aimait les physiques très efféminés, mais au point où limite il me demandait oui de venir avec une robe maquillée. Moi, je viendrais comme je viendrais. Il voulait que je m'épile et du coup j'ai fait bah non, enfin on va pas se rencontrer en fait.
Ouais, donc c'est là où en fait il veut pas te rencontrer toi. Il veut,
oui.
C'est l'aspect fétiche où en fait il te déshumanise, il t'enlève ta personnalité pour coller son fantasme dessus quoi.
De toute façon, les sites de rencontre, moi je trouve ça fun et tout, mais c'est très déshumanisant, que ce soit Tinder, Grindr ou autre. J'en ai testé beaucoup pour faire après mes expériences et pour avoir un classement pour plus tard. Du coup, ouais, c'est vraiment un truc hyper gloomy, hyper sombre, que du coup moi j'ai jamais fait de rencontre sur ça. Des fois je parle à des mecs, ça se passe très bien, d'autres c'est vraiment bizarre. Enfin, les dick pics de Jean-Michel 56 ans à 6h du matin, je fais wow, laisse-moi me réveiller. Et même, enfin, c'est pas les bonnes approches et du coup c'est compliqué de trouver son compte sur les sites de rencontre, surtout que moi genre je fais vraiment au feeling comment la personne s'intéresse à moi et comment je m'intéresse à la personne. Et du coup, voilà, du coup, sur le site de rencontre, je trouve pas forcément mon compte, et c'est pas grave. Et aussi sur Rennes, oui, il y a pas forcément, je connais pas forcément une communauté LGBT hyper, je vois pas une communauté LGBT hyper présente. Du coup, j'ai jamais fait des rencontres d'homosexuels qui pouvaient m'intéresser. Voilà.
Est-ce que tu penses que tu vas rester sur Rennes longtemps ou est-ce que... Parce que je me dis que ça peut être une vraie raison de changer de ville qui est, bah, en fait, j'aurais beaucoup de mal à trouver l'amour dans la ville où j'habite, quoi.
Bah, pourquoi pas. Après, pour l'instant, je finis au moins ma licence à Rennes pour après voir ce que je vais faire, si je continue jusqu'au master, si ceci, si cela, mais j'aimerais bien quitter Rennes. En plus, Paris, moi, j'aime beaucoup la ville de Paris, même si c'est sale, même si le métro, c'est horrible. Oui. J'aime pas ça. Mais après, je trouve que les gens sont beaux. Je trouve qu'il y a beaucoup de diversité. Du coup, tu peux trouver ton compte. J'ai un peu zioté sur Tinder et autres. Là, je fais, ben, voilà, pas mal. Mais,
J'emménage dans un an et demi.
J'ai dit ça à ma pote, j'ai matché avec un mec et j'ai fait, c'est bon, j'habite à Paris. Du coup, pour l'instant, je pense pas quitter Rennes. Bon, même si oui, du coup, ça me ferait du bien pour plein, parce que j'aimerais bien voir d'autres horizons, parce que j'y habite depuis tout petit. Enfin, Rennes, c'est pas hyper grand. T'as vite fait le tour. Après, t'as tes habitudes. C'est vraiment mignon. J'irais peut-être pas commencer directement par Paris, mais une ville comme Nantes ou Bordeaux m'intéresse. Et voilà. Mais ça pourrait être une raison, mais ce serait plus pas forcément la raison première, parce que je pense que j'ai pas fait tout le tour non plus de la communauté LGBT de Rennes. Et peut-être qu'un jour, je trouverai l'amour. Et voilà.
Écoute, si tu écoutes ce podcast et que tu veux faire découvrir à Rory la diversité de la communauté LGBT de Rennes...
Ça va, par contre, je suis hyper intéressée. Du coup, ouais, j'ai dit que je faisais des vidéos et j'aimerais bien faire le projet de rencontrer un peu tout ça pour après faire des projets. Je sais qu'à Rennes, il y a beaucoup de youtubeurs LGBT. Voilà. Et aussi, je sais qu'à Rennes, du coup, ouais, il y a une sorte d'association où ça fait du drag et j'aimerais bien, pourquoi pas, faire des projets avec cette association. Du coup, je lance un appel comme ça, si quelqu'un connaît... des contacts dans cette association, pourquoi pas me les donner pour pouvoir aller parler à ces personnes, parce que ça m'intéresse vraiment.
Tout à voilà. fait. Vous pouvez envoyer un DM à Rory ou poster un commentaire sur YouTube sous cet épisode du Boys Club, et peut-être que ça donnera de belles choses.
Bah ouais, j'espère.
Je voulais te demander, parce que c'est un truc que j'ai souvent vu revenir sur Internet quand je fais mes recherches sur les masculinités et tout, c'est qu'il y a effectivement un mouvement body positive et fat positive côté féminin qui commence à être bien implanté, même si il y a encore du boulot à faire sur les canons de beauté. Mais en tout cas, quand on pense body positive, on pense à des pubs comme celle de Dove, on pense à l'ISO, on pense à des initiatives par les femmes et pour les femmes pour représenter la diversité des corps féminins. Et en fait, il y a peu de mouvements body positive côté masculin, et notamment fat positive qui du coup mettent en avant des corps d'hommes gros. Est-ce que t'en connais, toi? Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, ah bah ces corps-là ils me ressemblent, c'est cool, ou ah là je peux vraiment m'identifier?
Pas énormément. Du coup, en gros, moi sur Instagram, je m'identifie beaucoup à de personnages féminins, comme Coucou les Girls, que j'adore, comme Lizzo, du coup, comme plein d'autres personnes, comme certaines dragues aussi. Après, chez les hommes, je connais Patrick Stars, qui est un youtubeur américain qui est en surpoids, on peut le dire, même, je trouve pas forcément, et qui, voilà, qui se maquille, qui porte des tenues de femme, qui met des grands foulards sur ses cheveux, c'est magnifique. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire The Boys Club. Du coup, ouais, je t'ai demandé parce que j'avais envie. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de représentations dans tout genre. Ça s'améliore, voilà. Genre, Bilal Hassani, moi, c'est pas forcément sa musique, voilà. Je l'écoute pas trop ou quoi que cela. Mais sur YouTube, je trouve que ça fait du bien. Malheureusement, il se prend des déferlantes de haine. Mais moi, ça m'a fait du bien de me dire qu'il y avait des hommes qui étaient à l'aise au fait qu'ils soient hommes et avec une grande part de féminité, qui mettent des perruques, qui se maquillent, qui s'habillent dans les rayons femmes ou autres. Et je trouve vraiment, ça m'a fait du bien. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ouais, c'est compliqué parce qu'en vrai, genre, soyons honnêtes, entre toi et moi, je remplis pas mal de gris dans le bingo de la discrimination. Voilà, que ce soit du coup, on prend pour une fille, du coup, ça peut être sexisme ou harcèlement, grossophobie, homophobie. Du coup, voilà, c'est j'ai une belle salade de fruits en moi, quoi. Et du coup, c'est très compliqué à trouver à m'identifier à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce Boys Club pour que toutes les personnes dans l'ombre puissent s'identifier à moi ou non. De toute façon, ce sera quelqu'un d'autre, je l'espère, pour pouvoir après me poser des questions. De toute façon, mes DM Instagram sont ouverts et même. Ouvrir le débat, je trouve que là on a parlé de plein de choses hyper intéressantes et ça va continuer, j'espère. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'avais cette initiative de faire le Boys Club. Au début, j'étais très très peureuse. Là, je fais, on va jamais m'accepter. Mais je suis qui? Moi, je suis personne. Et au final, j'envoie mon DM et quelques heures après, je reçois la réponse de Mimi qui est positive. Et là, j'ai fait OK. Et j'ai eu très peur.
It's happening.
J'étais tellement heureuse. J'étais en TD. Et je montre ça à ma pote. Et ma pote, elle me fait, oh, tu peux me faire une dédicace de Kalindi, s'il te plaît? Genre une vidéo Snap. Du coup, j'allais lui demander après. Voilà. Je sais pas si elle écoute les podcasts, Kalindi.
Elle participe au podcast, mais pour être honnête, ouais. Elle ne les écoute pas.
C'est dommage, parce que Kalindi, c'est la meilleure personne. C'est vraiment genre une personne que j'admire.
La meilleure personne. Ouais. Si tu ne sais pas, cher auditeur ou auditrice, Kalindi est la chef de projet cinéma et série télé de Mademoiselle. Elle est membre de la Brigade du Kiff dans notre podcast Laisse-moi kiffer.
Un très
tu
bon
peux
podcast.
La suivre sur Instagram @calrampfel et c'est la meilleure meuf.
Ouais, je me souviens, en plus, je lui avais parlé sur Instagram, elle devait en parler sur la Spotify, elle ne l'a jamais fait. Du coup, Kalindi, what's happening?
Show, elle devait te faire une dédicace.
Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas longtemps, j'écoutais beaucoup la Spotify, genre, au point où je l'ai réécouté en boucle, parce que c'est vraiment, genre, un podcast que j'adore, qui me détend, qui me permet un peu de déstresser, de me poser, de rigoler et tout avec vous. Et en gros, tellement que j'écoutais à ce moment-là, laisse-moi kiffer, j'ai fait un rêve avec toi. Louise et Kalindi, on vivait notre meilleure vie parisienne, à boire des verres, à aller dans des cafés, à parler. Et à la fin, avant de me réveiller, Kalindi m'appelle Rory Chouin. Et pendant longtemps. Et du coup, genre, je lui avais raconté, elle m'avait dit, moi, je lui raconte dans Laisse-moi kiffer, bah, j'attends.
Alors après, voilà. Ça fait pas longtemps, ça fait un petit moment qu'elle a pas fait Laisse-moi kiffer.
Oui, c'est vrai, c'est peut-être
ça. Elle avait
des
petits problèmes de santé. Donc on va pas l'embrouiller tout de suite.
Ah non, c'est bon.
Je le lui rappellerai discrètement.
On verra le prochain podcast. De toute façon, j'aimerais bien aller la voir après si elle est encore là.
On va lui faire coucou si elle est là. Oui. Ça marche. Ok, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aurais voulu aborder dans cet épisode ?
On a parlé de plein de choses. On a parlé body positif, ma sexualité, de mon style. J'aimerais bien aussi faire une petite catégorie conseil que je pourrais donner aux jeunes qui se cherchent encore dans leur identité. Mm-hmm. Des conseils que j'aurais bien aimé avoir aussi quand j'étais plus jeune. J'aimerais te dire à toi, auditeur, qui te cherche peut-être... de pas te mettre la pression, de pas te coller à un moule. Si t'as envie de changer les choses, de changer les genres, de changer les clichés de ceci cela, fais-le. Enfin, te mets pas la pression. J'ai eu beaucoup de conseils en me demandant oui pourquoi, genre comment t'as fait pour t'habiller chez les filles et tout. Moi, je sais pas comment le faire. Bah, fais-le. Au pire, commence par un panier Asos où tu veux dire oh j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Moi, ça a peut-être un problème parce que moi j'ai été indépendant financièrement à partir du moment où j'ai acheté des fringues féminines. Du coup, ma mère n'avait pas grand-chose à dire, même si elle était bah, elle m'a jamais empêché, mais trouvait ça peut-être parce que soit fille ou garçon, elle trouvait ça moche parce que j'ai un style assez particulier pour une quarantenaire, cinquantenaire. Voilà.
J'aime bien cette phrase, que soit fille ou garçon, elle trouvait ça moche. Je pense que y a pas mal de darons qui ont ce rapport là avec leurs enfants quand ils sont un peu bah quand ils ont un style un peu affirmé quoi, c'est pas le problème du genre,
non,
c'est juste c'est
ma
moche.
Ma mère déteste le vintage, elle déteste les trucs hyper larges. Voilà, bon, c'est pas grave, de toute façon, elle m'a jamais empêché de porter quelque chose. Du coup, ouais, je te dirais de vraiment d'avoir confiance en toi, de faire les choses rapidement, d'essayer de pas trop avoir de complexe par rapport à ça, d'en parler, que ce soit ouais à un ami, si tu sais que cette personne sera bienveillante, si c'est une personne qui est toxique, je te conseille d'aller de la jarter de ta vie, d'aller en parler aussi à un prof peut-être à qui tu as confiance, à un parent, à une personne de ta famille, à ta sœur, ton frère, et de faire les choses vraiment très tranquillement parce qu'il y a des gens qui se précipitent. Moi, par exemple, j'ai découvert que j'étais gay en 3e, 4e, et mon coming out avec mes parents, je l'ai fait que cette année. Je sais très bien que mes parents n'avaient aucun problème par rapport à ça, mais c'était juste que je me sentais pas prêt. J'étais quelqu'un de très pudique sur mes sentiments dans ma famille. Du coup, voilà, j'ai pris mon temps et ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire parce que ça s'est très très bien passé. Je peux te conseiller aussi soit en accord avec toi-même. Pour la confiance en soi, ça arrivera. Pose-toi les bonnes questions. Essaye de te faire des petits brainstorms dans ta tête en mode qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai pas besoin, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, et quelle est la chose qui me rendra le plus heureux dans la vie. Parce que l'objectif d'une vie, c'est d'être le plus heureux. Et puis voilà quoi. Et voilà. Et n'ayez pas de complexe. De toute façon, ce qu'on vous dit, c'est de la merde. Voilà.
Tout à fait. Je rajouterais, entourez-vous bien. Je pense que c'est facile, malheureusement, d'être entouré par des gens qui te tirent vers le bas et pas vers le haut et qui t'acceptent, mais pas vraiment. Donc, essayez de faire des checks de temps en temps de est-ce que les gens dans mon entourage me font du bien et m'acceptent vraiment comme je suis, ou est-ce que je suis quand même un peu obligée de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas.
Et du coup, j'aimerais parler de mon groupe d'amis que j'ai teasé cet enregistrement de podcast depuis 2 semaines et qui ne sont que joie à l'écouter. Du coup, j'aimerais embrasser Amélie, Anna, Maxime, Jérémy, Louise, Tess, qui sont des personnes magnifiques qui m'ont vraiment aidé dans la construction de qui je suis aujourd'hui. Et vraiment, genre, si je pense que si je les avais pas eu, je serais pas forcément aussi bien dans ma peau aujourd'hui, puis là, à vouloir parler de ça sur Mademoiselle. Voilà.
Trop cool, on les embrasse. Merci d'être chouette. Du coup, je vais te poser la dernière question que j'aime bien poser à tous mes invités. Est-ce que tu as une idée d'homme réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité ?
Alors, j'y réfléchis, j'en ai plein. Déjà, je vais donner pour moi ma définition de masculinité positive. Pour moi, une masculinité positive, c'est une masculinité qui est sans complexe, qui n'a pas peur de dire ce qu'il a envie de dire, tout en respectant l'autre et tout genre, tout sexe ou tout humain. Qui s'assume en tant que masculinité sensible ou non. qu'ils assument en tant que masculinité efféminée ou non. Du coup, comme exemple, je peux avoir Kid Ismaël. Pour moi, Kid Ismaël, c'est un, du coup, Kid Ismaël, c'est un danseur vogueur parisien qui est aussi DJ et chanteur. Son album One Trick Pony est génial. Puis sur scène, il en balance. Du coup, je vous conseille. Kid Ismaël, vraiment, c'est vraiment un exemple pour moi parce que vraiment, il sort des codes. Voilà, il avait mixé à l'Élysée avec un t-shirt fils d'immigré noir et pédé. Ça avait beaucoup parlé et ce qui fait vraiment, c'est hyper cool. Ces chansons sont hyper cool. Sinon, j'ai qui d'autre comme exemple de masculinité positive, c'est voilà, vu que je suis dans le milieu un peu de YouTube, le YouTube game. Bon, à mon échelle, c'est pas grave, mais en tout cas, avant de faire des vidéos, je suis aussi abonnée. Et du coup, tout ce qui est Bilal Hassani, Spark Dyes, Sullivan Gwed, je trouve que c'est des masculinités hyper positives. Ils n'ont pas peur du coup de ce genre au féminin pour rire. Alors que pour rire, il y a plein de mecs qui s'énerveraient, qui diraient non, moi je suis un bonhomme, c'est là. Alors qu'ils font ça va ma grande, c'est comme ça. Et je les adore. Je trouve ça hyper cool. Vraiment, je trouve que c'est une bonne représentation de masculinité positive. Dans la mode, il y a Jacquemus que j'aime énormément. Ces fringues sont stylées, mais coûtent si cher. Si quelqu'un veut m'acheter le Chiquito, le petit sac Jacquemus en rouge ou en noir, je suis OP. Viens me parler sur Instagram, on fait la commande ensemble. Mais vraiment, je trouve que sa mode, en plus, elle est assez androgyne. Il a pas peur de briser les codes. Il avait fait un défilé qui s'appelait le Méditerranéen. Et souvent, bah, les hommes méditerranéens sont pas réputés pour une masculinité hyper positive. Ils sont un peu, on peut retrouver des exemples de masculinité toxique. Mais je trouve comment il avait été abordé avec des looks assez androgynes, assez chill. Je trouvais ça hyper cool. Du coup, voilà, j'ai plein d'autres exemples. Bah, j'ai des amis aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour.
Trop cool. Merci pour cette petite liste. Je commence à avoir de plus en plus de mecs qui ont des listes par rapport au début du podcast où c'était oh, je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire que les exemples sont de plus en plus mis en lumière, quoi. C'est chouette. Merci beaucoup, Rory, d'être venu dans The Boys Club.
De rien, merci à toi de m'avoir permis de faire cet épisode et d'avoir mis en lumière ma parole. Voilà.
C'était trop cool. Amuse-toi bien au concert de Lizzo ce soir.
Merci beaucoup.
Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Si c'était ton premier, bonne nouvelle, tu en as plein à rattraper. Il te suffit de t'abonner pour regarder ce que tu as raté. Tu peux faire la pub du podcast, ce serait très sympa, en mettant notamment 5 étoiles sur Apple Podcast et en mettant un avis favorable. Comme ça, il y a plus de monde qui vont découvrir le podcast, plus de monde qui vont l'écouter et l'univers sera un endroit plus beau. J'en profite pour faire une petite promo. On a lancé un nouveau podcast sur Mademoiselle que je te conseille d'écouter. Ça n'a rien à voir avec le Boys Club, à part que je suis souvent dedans et que c'est vachement bien. Ça s'appelle Sors le Popcorn et on parle de cinéma un mercredi sur deux et de séries télé le dernier vendredi de chaque mois. Donc voilà, abonne-toi aussi à Sors le Popcorn. Merci d'écouter les podcasts, merci de faire confiance à Mademoiselle. Et si toi aussi tu veux participer au Boys Club, tout est expliqué dans la description. Bisous!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.